Chapitre 20 et 1. Le chapitre 20 et 1 des Actes, vu sous la perspective de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le chapitre 21 des Actes n'est pas un chapitre relatant l'entêtement personnel de Paul ou une erreur de jugement de la situation. Ce chapitre montre comment l'Évangile déjà accompli de l'eau et de l'Esprit, allant au-delà de la logique de protection humaine, pousse le témoin dans le lieu inévitable du témoignage. Les événements de ce chapitre nous prouvent du pourquoi une personne qui possède l'Évangile, où le problème du péché est déjà réglé, ne fait pas marche arrière même face au danger de mort. Actes chapitre 21, versets 1 à 6, départ et adieu, sur la communauté mature qui ne s'approprie pas les personnes pour la mission. Nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais, lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage, et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Le groupe de Paul trouve les disciples et reste à Tyr pendant 7 jours. Lorsqu'ils partent, tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes et firent leurs adieux. Cette scène n'est pas une simple séparation émotionnelle, mais montre l'apparence d'une communauté mature, sachant que le centre du salut n'est pas dans l'homme, mais dans l'Évangile. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit produit un amour profond parmi les saints, mais en même temps, il donne la liberté de respecter la mission confiée à chacun et de savoir comment les envoyer uniquement sur la voie du Seigneur sans chercher à se posséder les uns les autres. Actes chapitre 21, versets 7 à 11, la prophétie d'Agabus, sur la préparation au témoignage, non pas un avertissement pour barrer la route. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit ». L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. En arrivant à Césarée, le prophète Agabus prend la ceinture de Paul, se lie les mains et les pieds et prophétise en disant « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Cette prophétie n'était pas un commandement de Dieu pour barrer la route à Paul, mais la méthode de Dieu pour l'informer à l'avance sans cacher la réalité des tribulations à venir. Le Saint-Esprit n'a pas essayé de protéger Paul en l'isolant du danger, mais a plutôt préparé la scène du témoignage qui s'accomplirait à travers cette tribulation. Actes chapitre 21, versets 12 à 14, la réponse de Paul sur la conviction du salut surpassant la menace de la mort. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes « Que la volonté du Seigneur se fasse. » Lorsque les personnes qui ont entendu la prophétie ont pleuré et supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem, Paul répond « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt. » Non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas une décision héroïque ou une pulsion de mort, mais une confession née de la conviction que l'autorité du péché et de la mort a déjà pris fin par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par la croix. Pour celui qui possède l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la mort n'est plus un objet de crainte, mais devient la toile de fond la plus puissante pour témoigner du salut accompli. Actes chapitre 21, versets 15 à 26, La proposition de l'Église de Jérusalem sur la considération culturelle pour garder l'essence de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvoie à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. À Paul qui est arrivé à Jérusalem, Jacques et les anciens proposent d'accomplir le rite de purification pour dissiper le malentendu des Juifs. Paul accepte cette proposition et prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Cet acte n'était pas l'ajout d'une condition au salut ni une modification de l'Évangile, mais une considération culturelle pour la paix avec la communauté juive. Cela montre que celui qui a déjà obtenu la liberté n'est pas lié par le fait de prendre une forme quelconque pour l'amour de l'Évangile. Actes chapitre 21, versets 27 à 30, l'essence du tumulte sur la résistance inévitable à l'Évangile qui met fin au système de la loi. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Hommes israélites, au secours !» Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient en vue auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. Les Juifs d'Asie voient Paul dans le temple, soulèvent la foule et se saisissent de lui. Ils provoquent un tumulte en criant « Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. » Bien que cette accusation fût un malentendu malveillant, elle révèle en même temps les faits exacts qu'a l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit met effectivement fin à la loi et au système sacrificiel répétitif qui établissent la justice humaine et établit la loi de la vie. Actes chapitre 21, versets 31 à 36, l'intervention de l'armée romaine sur le témoignage de l'Évangile guidé dans l'ordre public. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certain à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Lorsque la multitude cherche à tuer Paul, la rumeur selon laquelle toute la ville de Jérusalem est en confusion parvient au tribun de l'armée. Lorsqu'il prend des soldats et accourt, la multitude cesse de frapper Paul. Le tribun commande de le fit lier de deux chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cette intervention n'était pas une coïncidence, mais la providence de Dieu pour faire entrer l'Évangile dans l'ordre public. c'est parce que l'Évangile n'est pas une idéologie illégale prêchée en cachette, mais une vérité publique qui doit être proclamée avec assurance même devant les tribunaux et les puissances du monde. Actes chapitre 21, versets 37 à 40, parlez plutôt que se taire, sur l'attitude du témoin qui transforme le danger en opportunité. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?»« Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit « Lorsque Paul est sur le point d'entrer dans la forteresse, il demande au tribun « Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Paul, ayant reçu la permission, se tient sur les degrés, fait signe de la main à la multitude et, après avoir fait établir un profond silence, commence à parler en langue hébraïque. Il a utilisé la scène de son arrestation qui le liait non pas comme une opportunité pour s'échapper, mais comme une opportunité pour annoncer de nouveau l'Évangile. L'Évangile de l'eau et de l'esprit ne recule pas devant le danger, mais exerce plutôt la capacité de convertir cette crise en une scène décisive pour expliquer la structure entière de l'Évangile. En conclusion, le chapitre 21 des Actes témoigne que la direction du Saint-Esprit ne supprime pas le danger, mais accorde une signification sainte à ce danger. Celui qui croit que tous les péchés ont déjà pris fin par le baptême de Jésus choisit le témoignage plutôt que la sécurité, même face à la menace de la mort. Bien que Paul ait été lié de chaînes, l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il possédait n'a jamais été lié. C'est la méthode historique que montre le chapitre 21 des Actes, où l'évangile conduit le témoin sur le terrain le plus brûlant du monde. Un sermon de Paul Sijong. La parole du chapitre 21 des Actes, versets 1 à 40, est un chapitre qui montre de manière frappante à quel point la mission de l'Évangile exige l'obéissance des saints. En lisant ce texte du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Sijong, les pas de Paul n'apparaissent pas comme un entêtement personnel ou un héroïsme imprudent, mais comme un témoignage solennel de la façon dont une personne qui connaît la réalité du salut déjà accompli défend l'Évangile jusqu'à la fin. À Tyr, les disciples ont dit à Paul par l'Esprit de ne pas monter à Jérusalem, mais Paul n'a pas arrêté sa route. Ce n'était pas de la désobéissance à la direction du Saint-Esprit, mais la décision d'un porteur de mission prêt à endurer volontairement la tribulation prédite par le Saint-Esprit afin de témoigner de l'Évangile. Parce que Paul était convaincu du fait que cet Évangile, selon lequel Jésus-Christ a pris en charge les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean au fleuve Jourdain, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit en rend témoignage, est plus précieux que sa propre vie. Il a choisi le lieu du témoignage plutôt que la sécurité. Lorsqu'il est arrivé à Césarée, un prophète nommé Agabus est descendu, a pris la ceinture de Paul, s'est lié les mains et les pieds, et a prophétisé en disant que le Saint-Esprit déclare que les Juifs à Jérusalem liront de cette manière l'homme à qui appartient cette ceinture et le livreront entre les mains des païens. Les compagnons et les gens de la région qui ont entendu cela ont pleuré et ont supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul a répondu « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Une telle confession n'est pas une simple démonstration de volonté, mais l'assurance que seule une personne qui a déjà obtenu la liberté éternelle de la loi du péché et de la mort par l'évangile de l'eau et de l'esprit peut montrer. Parce qu'il avait la conviction du salut que même la mort ne pouvait rompre, Paul a laissé derrière lui les dissuasions de l'amour humain et est allé de l'avant, cherchant à ce que la volonté du Seigneur soit faite. Paul, arrivé à Jérusalem, a rencontré Jacques et tous les anciens, et a rapporté en détail les choses que Dieu avait faites parmi les païens par son ministère. Cependant, parce qu'un malentendu s'était répandu parmi les croyants juifs selon lequel Paul enseignait à renoncer à Moïse et à ne pas circoncire, les anciens ont conseillé à Paul de montrer une apparence de respect de la loi en accomplissant un rite de purification. Paul a accepté cette exhortation et a accompli la cérémonie de purification, ce qui n'était pas parce qu'il croyait que la loi était une condition pour le salut. mais une considération fondée sur la liberté obtenue au sein de l'Évangile pour éviter que les faibles ne trébuchent. Parce qu'il savait mieux que quiconque que le salut n'est pas maintenu par des actes humains, mais est déjà accompli uniquement par le baptême et le ministère de la croix de Jésus-Christ, il a volontairement renoncé à ses propres droits dans la mesure où cela ne portait pas atteinte à l'essence de l'Évangile. Cependant, la paix à Jérusalem n'a pas duré longtemps. Les Juifs d'Asie ont vu Paul dans le temple, ont soulevé la foule, se sont saisis de lui et ont provoqué un tumulte en criant « Hommes israélites, au secours !» Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit renverse les efforts religieux humains ou les sacrifices pour couvrir les péchés et proclame que le péché a éternellement pris fin uniquement dans le ministère de Jésus-Christ, il entre inévitablement en collision avec le système religieux existant. Lorsque toute la ville fut émue et que le peuple accourut de toutes parts, se saisit de Paul, le traîna hors du temple et essaya de le tuer, le tribun de l'armée prit des soldats, accourut, lia Paul et le fit mener dans la forteresse, préservant ainsi sa vie par la providence de Dieu. Sur les degrés menant à la forteresse, Paul a interrogé le tribun et a obtenu l'opportunité de parler au peuple. Lorsque le tribun l'a permis, Paul s'est tenu sur les degrés, a fait signe de la main au peuple et après les avoir fait taire profondément, a commencé à parler en langue hébraïque. Bien qu'il vienne tout juste de survivre au seuil de la mort, Paul était prêt à témoigner de nouveau de l'Évangile devant la foule qui avait essayé de lui faire du mal. Cela montre le fait que Dieu ouvre parfois la voie de l'Évangile par l'ordre et l'environnement du monde, et non par des miracles. L'apparence de Paul transformant même le lieu de ses liens en une chair pour l'Évangile prouve à quel point une personne saisie par l'Évangile de l'eau et de l'esprit peut être plus confiante que les puissances mondaines. En conclusion, le chapitre 21 des Actes nous demande si nous vivons une vie qui ajuste l'Évangile pour des raisons de sécurité, ou si nous nous tenons avec assurance dans n'importe quel environnement parce que nous connaissons la valeur du salut accompli. Cette vérité, selon laquelle Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement sur la croix et que le Saint-Esprit le confirme, nous donne la paix et le courage que le monde ne peut pas donner. Tout comme Paul a avancé malgré les dissuasions et a ouvert la bouche pour annoncer la parole même dans les chaînes, nous devons nous aussi courir jusqu'à la fin en tant que témoins de l'Évangile dans la foi qui croit au salut déjà accompli. C'est exactement la voie d'un véritable disciple que les Actes des Apôtres nous enseignent aujourd'hui. Questions et réponses sur le chapitre 21 des Actes. Première. À propos du chapitre 21 entier des Actes du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En regardant le chapitre 21 des Actes du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il ne s'agit pas simplement d'un récit de la visite de Paul à Jérusalem, mais il est interprété comme une scène tendue où le zèle humain et la tradition de la loi entrent en collision avec la justice de l'Évangile accompli. Bien que Paul entende à plusieurs reprises les disciples, poussés par le Saint-Esprit, l'exhorter à ne pas monter à Jérusalem, il n'arrête pas ses pas disant « Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus ». Ici, la décision de Paul n'est pas de l'entêtement pour établir sa propre justice, mais montre de manière pratique la vie du juste, qui n'épargne pas du tout sa propre vie pour l'accomplissement de l'Évangile, tout comme Jésus a pris sur lui les péchés du monde par le baptême et s'est dirigé vers la croix. Le cœur de l'événement réside dans la scène du rite de purification 21-23-26 que Paul a accompli pour dissiper le malentendu des Juifs selon l'exhortation de Jacques et des anciens après son arrivée à Jérusalem. Vu sous l'angle de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ce rite de purification n'était qu'une cérémonie légaliste qui n'est plus nécessaire à celui qui a déjà obtenu l'élimination éternelle et parfaite du péché par le baptême et le sang de Jésus. Cependant, la raison pour laquelle Paul a participé à cette cérémonie pour gagner les Juifs n'était pas parce que la loi est une condition pour le salut, mais c'était une concession pour élargir la porte de l'Évangile. Pourtant, paradoxalement, un tel compromis légaliste n'a pas pu calmer la colère des Juifs, mais est plutôt devenu l'occasion pour Paul d'être saisi dans le temple. Ce paradoxe prouve le fait qu'aucun effort ou cérémonie légaliste humain ne peut satisfaire le zèle religieux d'un pécheur, et que seul l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donne la véritable paix et le salut. En fin de compte, le processus, dans la seconde moitié du chapitre 21, où Paul est lié par l'armée romaine et obtient l'opportunité de prêcher l'évangile à la foule, montre que la justice de Dieu s'étend non pas par des moyens humains, mais par la tribulation et la proclamation de l'évangile. La folie religieuse des Juifs essayant de tuer Paul révèle l'adresse actuelle des humains liés sous la loi. Et l'apparence de Paul se tenant avec assurance, même dans cette tribulation, symbolise la véritable liberté dont jouit celui qui a transmis ses péchés à Jésus par son baptême et a reçu le sceau du Saint-Esprit. Par conséquent, le chapitre 21 des Actes nous pose la question. Même si nous avons déjà obtenu la justice parfaite par l'eau et l'esprit, essayons-nous toujours de résoudre les problèmes avec la tradition légaliste et des méthodes humaines, et peut-être considérer comme un chapitre qui nous exhorte à nous appuyer uniquement sur l'évangile accompli par le Seigneur. Deuxième, comment ces pas de Paul vers Jérusalem deviennent-ils un canal pour témoigner de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le processus ultérieur de son escorte vers Rome ? Le voyage de Paul, arrêté à Jérusalem et escorté à Rome, est un processus magnifique montrant comment l'évangile de l'eau et de l'esprit va au-delà de la vie d'un individu et avance vers une confirmation publique et mondiale. Le fait que Paul en soit venu à aller à Rome, se défendant devant le gouverneur Félix, Festus et le roi Agrippa, n'était pas une simple lutte juridique, mais la stratégie de Dieu pour implanter la voie de la croix qui a mis fin à cette punition, et le baptême de Jésus qui a reçu le transfert des péchés de l'humanité au centre du monde de cette époque appelée Rome. Paul n'a pas reculé même dans la situation où il était lié, mais a plutôt souligné, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, Actes chapitre 20, verset 21, et a proclamé avec confiance que la justice de l'évangile qu'il a rencontré est au-dessus des lois de ceux qui sont au pouvoir. En particulier, le processus de navigation qui a rencontré la tempête Euraquilon montre de manière frappante comment la personne juste qui possède l'évangile de l'eau et de l'esprit sauve le monde au milieu de la tribulation. Alors que tous tremblaient dans la peur de la mort et jetaient les agrès du navire, Paul a proclamé « Prenez courage » et a délivré le message de salut transmis par l'ange de Dieu. Cela ressemble au principe évangélique où, tout comme lorsque l'humanité sombrait dans la tempête du péché, Jésus nous a garanti la sécurité éternelle en portant tous nos péchés par le baptême. Le fait que la vie de 276 personnes dans le navire ait été préservée grâce à la seule personne de Paul est devenu un canal prouvant visuellement le principe de la rédemption où l'humanité entière en est venue à obtenir la voie pour vivre par le baptême et le sacrifice reçu par la seule personne de Jésus-Christ. Le dernier récit des Actes des Apôtres, 28-31, selon lequel Paul finalement arrivait à Rome et restait dans sa maison louée, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle, symbolise la victoire de l'Évangile. Dans « Ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ » que Paul a prêché, l'événement où il a ôté les péchés du monde en recevant le baptême de Jean et l'effusion de sang sur la croix sont naturellement inclus. La route de l'escorte de Paul est finalement devenue le canal de bénédiction par lequel l'évangile de l'eau, qui est la procédure légale par laquelle un pécheur devient une personne juste, a coulé dans le cœur de Rome et ses liens ont plutôt produit le résultat paradoxal de rendre l'évangile sans lien. Troisième, examinons plus profondément à travers des versets spécifiques comment cet évangile de l'eau et de l'esprit est tissé dans les épîtres de la captivité, Éphésiens, Philippiens. Etc., écrite par Paul dans la prison romaine. Explication. Les épîtres de la captivité écrites par Paul dans la prison romaine montrent que, bien que son corps soit lié, la liberté spirituelle donnée par l'évangile de l'eau et de l'esprit, accomplie par le baptême et le sang de Jésus, a atteint son apogée. De manière représentative, dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, Paul proclame « En lui, nous avons la rédemption par son sang ». La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ici, l'expression « en Christ » n'est pas simplement un état psychologique mais signifie l'état dans lequel nous sommes légalement unis à lui, alors que Jésus a reçu le transfert de tous nos péchés par le baptême. De plus, la partie mentionnée dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, « afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau », soutient clairement la façon dont le lavage de l'eau, le baptême de Jésus, souligné par le pasteur Paul Sijong, transforme les saints en un statut saint, en une seule fois. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, représente bien le dépouillement de soi et l'obéissance, qui sont les états d'esprit fondamentaux de Jésus recevant le baptême de Jean. Paul rapporte que celui qui est en forme de Dieu a pris la forme d'un serviteur et est devenu semblable aux hommes. Et cela dépeint l'extrême de cette humilité où celui qui est sans péché a incliné la tête devant Jean-Baptiste et a reçu le transfert des péchés de l'humanité. Parce que la justice de cet évangile est si certaine, Paul confesse dans Philippiens chapitre 3 verset 9 « et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi ». La raison pour laquelle Paul pouvait se réjouir, même dans la situation extrême appelée prison, était que la justice de Dieu, que Jésus a parfaitement accomplie par son baptême et la croix, et non par ses propres actes, tenait son cœur par le sceau du Saint-Esprit. En fin de compte, le cœur des épîtres de la captivité est d'accepter la victoire parfaite accomplie par Christ, comme étant la propre victoire du croyant. Dans Colossiens chapitre 2, verset 12, Paul dit « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts, reliant le fait que le baptême que Jésus a reçu de Jean est exactement la mort de notre vieil homme et le commencement d'une vie nouvelle. Ainsi, pour Paul, la vie en prison n'était pas un temps de douleur, mais plutôt un temps prouvant à quel point la conviction de la personne juste obtenue par l'évangile de l'eau et de l'esprit est solide. À travers les épîtres, il exhorte ardemment les saints à ne pas retourner aux principes élémentaires de la loi, mais à demeurer dans l'expiation éternelle accomplie en une seule fois par le baptême et la croix de Jésus et à marcher avec le Saint-Esprit. Quatrième, ligne directrice pratique spécifique vers la libération du péché et une vie remplie de l'Esprit témoigné par les épîtres de Paul. Explication. L'évangile de l'eau et de l'esprit, témoigné par les épîtres de Paul, nous présente aujourd'hui non pas une simple doctrine, mais des lignes directrices pratiques de vie fondées sur l'identité du juste. La première ligne directrice est de prendre l'état légal déjà accompli par la foi. Dans Romains chapitre 6 verset 11, Paul exhorte « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Ici, le mot « regardez-vous » ne signifie pas s'appuyer sur des émotions, mais signifie penser et agir sur la base du jugement écrit confirmé selon lequel Jésus a ôté mes péchés par le baptême et a mis fin à cette punition sur la croix. Lorsque la tentation du péché survient, proclamez non pas « je suis un pécheur essayant de ne pas commettre de péché », mais « je suis une personne juste qui est déjà morte avec Jésus et a été libérée du péché » est le commencement de la libération réelle. La deuxième ligne directrice est la vie d'union suivant le désir du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une énergie que j'obtiens en faisant quelque chose avec diligence, mais signifie l'état de confier l'initiative de mon cœur au Saint-Esprit qui habite en celui qui croit à l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme la parole de Galates chapitre 5 verset 16, « Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair ». Car c'est parce que le Saint-Esprit nous fait méditer sans cesse sur ce grand amour que Jésus a accompli. Lorsqu'on a commis un péché, ne pas tomber dans un sentiment de condamnation et éviter Dieu, mais s'avancer immédiatement vers le trône de la grâce en disant « Même cette apparence qui est la mienne a déjà été entièrement lavée par le baptême et la croix de Jésus il y a 2 000 ans » est exactement l'apparence spécifique d'une vie remplie de l'Esprit, qui est la résilience évangélique. La troisième ligne directrice est la vie d'un missionnaire de style de vie motivé par la gratitude et la joie. Paul dit dans Philippiens de se réjouir toujours, soulignant que c'est un privilège de la personne juste qui a la citoyenneté dans les cieux et non un changement d'environnement. La raison pour laquelle nous vivons honnêtement et saintement dans le monde n'est pas pour obtenir le salut, mais parce que nous sommes reconnaissants envers Dieu qui m'a déjà parfaitement sauvé par le baptême et le sang. Une telle sainteté spontanée devient un parfum puissant pour les gens autour de nous, suscitant la question « Comment profites-tu d'une telle paix et d'une telle liberté ?» À ce moment-là, nous en venons à propager avec assurance l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par Jésus qui est en moi et non par moi-même. C'est la manière de vivre la plus spécifique et la plus glorieuse vécue par la personne juste libérée du péché, que Paul nous a montré à travers ses épîtres.